C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de l'affaire Coca versus Cristiano. Et pour m'accompagner, je suis avec mon expert sport business, Adjane Chélil.
Bonjour, bienvenue sur BFM Business. Bonjour Thibaut, j'espère que vous allez très bien en ce moment.
Mais je vais super bien, merci.
Eh bah, magnifique. Ouais, on va parler d'une affaire qui en 20 secondes a retourné Coca.
Ouais, il s'est passé un truc.
Un
scandale, un bad buzz. Une affaire qui occupe depuis eh bien, tous les journalistes sportifs, les experts sport business. Moi, j'appelle ça le Coca Gate. Une affaire rocambolesque, mais qui est intéressante parce que elle donne beaucoup à comprendre et à voir de ce qui se passe aujourd'hui.
C'est clair.
Et quel est le rapport qu'entretiennent les joueurs slash influenceurs et les marques.
Ouais, en 20 secondes, Coca-Cola a perdu très cher hein, avec Ronaldo qui est arrivé en conférence de presse. Alors pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble, c'est vraiment après les matchs ou avant les matchs, vous avez un joueur, l'entraîneur d'une équipe qui vient, vous avez un grand panneau de sponsoring derrière eux avec toutes les marques partenaires de l'Euro et puis devant eux, vous avez une petite table et après un parterre de journalistes. Sur cette petite table, il y a quelques placements de produits de partenaires de l'Euro, donc il y a quelques bouteilles qui sont posées devant eux sur la table. Alors on pourrait déjà dire que c'est un placement de produit un peu grossier et pas très joli parce que en termes d'image, cadrage, on voit juste la tête des joueurs qui dépasse au-dessus des bouteilles presque. Mais du coup, devant eux, ils ont de l'eau, du Coca, même parfois de la bière, voilà, des marques qui sont partenaires, Heineken, Coca-Cola, etc., etc. Et Cristiano Ronaldo, dernièrement, il y a 3 jours, je crois 4 jours maintenant, il arrive en conférence de presse, il s'installe, il voit les 2 bouteilles de Coca, plus donc Coca, Coca Zéro, plus sa bouteille d'eau. Et tout simplement, il va prendre les 2 bouteilles de Coca, les cacher sous la table, regarder les journalistes et dire « Ah quoi ?» Et remettre la bouteille d'eau.
Hein,
voilà,
ça,
tout simplement, pour les gens qui seraient pas trilingues, parce que j'ai fait un mélange d'espagnol et d'italien là. Et du coup, il a posé la bouteille d'eau devant lui. Et mais tout ça de manière très très calme. Et puis, l'interview a démarré avec les journalistes qui ont posé leurs questions. Et basta. Personne se doutait qu'il allait se passer quelque chose.
Sauf que, bah oui, sauf que évidemment, ça a eu un impact majeur, hein, c'est-à-dire que le premier, ça a eu un impact business directement hein, sur Coca-Cola. Le cours de Coca-Cola a dévissé, comme on dit justement chez BFM Business, il a dévissé de 1,6% en bourse, hein, passant de 56,16$ à la clôture vendredi à 55,23$. Donc en gros, dévissage assez spectaculaire, ouais. Sans pour autant, voilà, Coca-Cola n'est pas ruiné. Hein,
alors
comme
attention, parce que déjà là t'as donné un chiffre qui donne déjà l'impression effectivement que c'est pas si énorme. En 48 heures la capitalisation boursière du groupe Coca-Cola est passée de 242 à 238 milliards de dollars, soit 4 milliards de dollars de perdu en 48 heures parce que Ronaldo a caché 2 bouteilles de Coca. Ça c'est le titre un peu bold effectivement. Après quand on gratte un petit peu, en un an les actions de Coca-Cola elles ont augmenté 18,47% malgré le gate de Ronaldo, donc on voit bien que c'est très,
non, évidemment,
c'est très léger.
Évidemment Cristiano n'a pas coulé Coca. Coca va s'en remettre. Mais par contre, c'est très intéressant. Oui. Ça pose beaucoup de questions, hein, notamment, évidemment, le sujet de l'influence, peut-être du sujet de quand l'influenceur, le sportiste dépasse la marque. Se pose la question aussi de la conséquence de ces gestes de défiance pour les marques hein, qui dépensent des dizaines de millions d'euros pour financer le sport. Il y a plein de questions qui naissent de tout ça. Hein.
Bien sûr. Déjà, il y a pour moi la toute première chose, c'est que même si c'est très léger comme perte au final pour Coca-Cola, Coca-Cola paye très cher pour être partenaire de l'UEFA qui organise l'Euro, paye très cher pour avoir ces 2 petites bouteilles de Coca-Cola sur la table dans chaque conférence de presse, à son sponsor sur le panneau de sponsor derrière, etc., etc. Donc quand on paye aussi cher comme ça comme Coca-Cola, on a en droit de se demander, attendez, moi, tout l'argent que je mets dans vos compétitions de foot pour apparaître à l'intérieur et avoir gagné de la visibilité ou faire de la préférence de marque. On peut pas la balayer comme ça. Je me retrouve à perdre 4 milliards d'euros alors que c'est moi qui paye pour être à l'intérieur de votre compétition. Et là, Coca, on imagine bien qu'ils vont pas être contents quand même.
Ouais, j'imagine qu'ils sont pas contents. Mais ce que ça donne, ce que ça montre, hein, c'est que le sponsoring sportif, il est en train de basculer vers de la collaboration de marque. C'est-à-dire qu'initialement, on parlait de sponsoring. Comme tu l'as dit, Coca, boum, fout des millions et est sponsor de cette, d'un événement sportif. Sauf que les événements sportifs aujourd'hui ont changé. Pourquoi ? Parce que ce sont des événements déjà de marque. Les joueurs sont des marques. On en a déjà parlé ici au micro du Super Daily, il y a à peu près 10 épisodes où on a parlé justement de la marque Mbappé, de la marque Griezmann, de la marque Benzema, qui sont des marques médias extrêmement puissantes. Et du coup, ces histoires de sponsoring, Coca-Cola, en fait, travaille un co-branding avec d'autres marques. Et du coup, c'est beaucoup plus complexe qu'un sponsoring. Il y a parfois eh bien, des jeux d'influence, des jeux de, d'adéquation de marque qui, sont, qui se jouent.
En fait, une marque comme Coca-Cola, quand elle vient sponsoriser l'Euro, elle s'associe à des marques joueurs, à des stars en fait. Hein, parce que Coca-Cola, elle est très heureuse d'être sur une table affichée juste devant Cristiano Ronaldo, qui est une star mondiale du foot, aux millions et aux millions de followers sur les réseaux sociaux. Et ils sont ultra heureux. C'est pour ça qu'ils payent, c'est pour être associés à ce type de marque. Mais là, dans cette histoire-là, on a bien compris que Cristiano Ronaldo, lui, sa marque à lui, elle n'était pas en adéquation avec les valeurs de Coca-Cola ou avec la marque Coca-Cola. Et c'est là où on peut parler effectivement, comme tu le disais, de collaboration de marque. C'est que c'est plus du simple sponsoring et de l'influence marketing. Là, c'est de la collaboration à la base entre l'UEFA et Coca-Cola. On se retrouve à une collaboration entre Cristiano Ronaldo et Coca-Cola à l'image. Et lui, Cristiano Ronaldo, il se dit, moi, je suis un esthète, je suis un athlète complet.
J'ai un positionnement de marque.
Mon positionnement de marque, c'est le perfectionnisme physique. C'est tirer le meilleur de soi-même, de son corps, la nutrition, le sommeil, tout. Et on retrouve d'ailleurs dans ses sponsors, beaucoup de sponsors qui vont dans ce sens-là, dans le sens de bien vivre, de faire attention à soi, à son corps, etc. Et quand lui, il s'assoit devant Coca-Cola, pour lui, ils sont complètement antagonistes. C'est de sa marque et Coca-Cola.
Et oui, et parce que le sujet de le sponsoring, c'est pas la même chose que la collaboration de marque. C'est pas la même chose qu'on va chercher. Le sponsoring, je mets mon sponsor. En gros, c'est assez top-down comme décision. Je finance, donc je suis visible. La collaboration de marque, ça nécessite que les marques, les deux marques ou les plusieurs marques qui travaillent ensemble, elles aient des valeurs communes. Et c'est beaucoup plus complexe. Hein. C'est ça le sujet d'une collaboration de marque. Donc effectivement, là, il y a un clash de marque. C'est pas juste un joueur, comme on a pu le lire. Un joueur qui n'aime pas le Coca, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une marque qui s'appelle Cristiano Ronaldo qui défend un certain nombre de valeurs qui ne sont pas alignées avec les valeurs de cette autre marque Coca-Cola.
Et on a vu que ça allait, que ça avait des répercussions un peu plus loin, puisque on peut prendre d'autres exemples qui se sont passés depuis. Il y a Pogba avec Heineken qui est arrivé pareil en conférence de presse et qui avait devant lui bouteille de Coca, bouteille d'eau, bouteille d'Heineken. Il a viré la bouteille d'Heineken parce qu'il voulait pas être associé à une marque de bière. On imagine que voilà, en lendemain de victoire de match, il n'avait pas envie de dire « nous, on boit de la bière » ou non. Pareil, dans le même un peu état d'esprit que Ronaldo, on est des sportifs de haut niveau, on ne boit pas de l'alcool comme ça pour, au milieu de l'Euro. En fait, on remarque qu'il y a quand même un côté marque un petit peu, entre guillemets, junk food, qui sont plus liés à la consommation du sport chez toi, devant la télé, avec ta pizza, ta bière et en train de regarder l'Euro, plutôt que du côté des joueurs qui, eux, défendent d'autres valeurs de marque souvent.
Ouais, ça c'est intéressant. Alors là, tu parles de, tu as parlé de Cristiano Ronaldo, tu as parlé de Pogba, effectivement, il y a un Italien aussi hein, qui a fait la même chose avec en poussant une bouteille de, pareil, en conférence de presse, il se passe quelque chose. C'est quand même la première fois qu'on voit ça. Il y a une vraie défiance actuellement des joueurs vis-à-vis des marques sponsors, et puis peut-être plus que ça, de la manière dont ce sponsoring est fait. Parce qu'effectivement, on n'est plus dans du sponsoring quand tu fais du placement de produit. On essaye, ces marques-là, ce qu'elles ont essayé de faire, ce qu'essayent de faire l'UEFA et la proposition qu'ils ont fait aux marques Coca et aux marques Heineken en posant du produit, c'est de dire on va faire plus que le sponsoring, on va faire de l'influence marketing.
Ouais.
Sauf que ça, l'influence marketing, eh ben, il faut que tout le monde soit d'accord. Et si en face, tu as des marques joueurs qui ne sont pas d'accord, ça pose forcément un problème.
Et là, en revenant encore à Coca-Cola, on peut aussi se dire que peut-être que sur le long terme de cet euro, ça va plus les mettre en avant que les freiner. Parce que ce qui s'est passé avec Cristiano Ronaldo est en train de devenir une running van sur, dans les conférences de presse. Et on a vu hier le sélectionneur de la Russie arriver en conférence de presse et prendre les deux bouteilles de Coca-Cola et comme un bon gars de PMU, ouvrir une bouteille avec l'autre et commencer à boire sa bouteille de Coca-Cola. Pour un sélectionneur russe, je trouve ça assez, assez drôle. Et puis après, on a un autre joueur de l'Ukraine qui est la star de l'Ukraine, Yarmolenko, qui est un peu plus drôle dans sa manière d'être avec de jouer avec les médias, qui lui, à la fin de son interview, a carrément dit « Attendez une seconde, c'est cette bouteille-là que Ronaldo a mis sous la table. » Et là, il a rapproché les deux bouteilles de Coca de lui, la bouteille d'Heineken de lui, et il a dit « Heineken, Coca-Cola, je suis disponible si vous cherchez un partenariat. » Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, effectivement, comme tu le dis, et que peut-être que sur le long terme, ce running gag autour de Coca-Cola va peut-être être bénéfique à la marque, elle la rendre encore plus visible que ce qu'elle aurait été.
Au passage, ce qu'il y a de très intéressant, évidemment, en face, on a posé la question de l'alignement de valeurs. C'est notamment le sujet autour de Paul Pogba et d'une marque d'alcool. Pour Cristiano, une marque de junk food. Sauf que, ce qu'il y a quand même de marrant à souligner et à se souvenir, c'est que Ronaldo a déjà travaillé avec Coca-Cola, a déjà fait des actions en partenariat avec Coca-Cola. À l'occasion de la Coupe du Monde 2006, CR7 avait vanté même carrément en une pub télé les mérites de Coca à la télévision japonaise. Il y a une pub qu'on va vous balancer et que vous pourrez voir en lien de cet épisode. Très clair. En plus de ça, en 2013, il a fait carrément une pub pour KFC. Là, pareil, on peut pas faire plus de junk food en Arabie Saoudite. Donc, c'est pas juste une histoire de valeur. C'est pas juste une histoire d'alignement de valeur, c'est une histoire d'oseille, de valeur financière. Ah, oui. À un moment donné, je suis une marque puissante, tu viens pas poser ton logo sur ma tronche sans quand même qu'on a eu des discussions
sans
préalables.
Sans parler monnaie. Ça, c'est sûr. Et puis, on peut se poser la question de est-ce qu'ils ont le droit de faire ça. Et justement, là-dessus, il n'y a aucune loi dans le règlement de l'UEFA qui prévoit de sanctionner avec une procédure disciplinaire un joueur qui enlèverait des sponsors comme ça de sur la table devant lui. Et même plus que ça, je trouve qu'on a retrouvé une organisation européenne assez clémente puisqu'elle a communiqué en disant que chacun est libre de boire les boissons qu'il préfère. Donc, grosso modo, si un joueur arrive là et qu'il n'a pas envie d'être associé à une marque qui est posée sur la table, il peut l'enlever. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est quand même que Paul Pogba, par exemple, quand il enlève la bouteille d'Heineken de devant la table, il a quand même le logo Heineken en gros sur le panneau de sponsoring qui est juste derrière lui.
Bien sûr. C'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les contrats publicitaires qui sont faits, les contrats de sponsoring sont faits entre les marques Heineken et Coca et l'UEFA en l'occurrence.
Qui est l'organisme qui organise l'euro.
Exactement. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont les équipes nationales qui sont dans l'obligation de respecter ce sponsoring contractuellement, mais pas les joueurs. Ouais. Donc c'est assez complexe comme imbrication. T'as plusieurs marques qui s'imbriquent et objectivement les joueurs sont vraisemblablement en droit de ne pas jouer le jeu jusqu'au bout de ce sponsoring là. Très intéressant, c'est quand même une première fois qu'on suit au cœur d'un événement un truc aussi complexe. On le sait, il y avait déjà eu des joueurs qui avaient dénoncé, qui avaient rompu des contrats. On pense évidemment à Griezmann avec Huawei où il avait arrêté son partenariat suite à effectivement au sujet de la question Ouïghour. C'est pas la première fois qu'il y a des ruptures de contrat pour non-alignement de valeurs.
Mais à la limite, c'était d'un contrat entre un joueur et une marque directe. Alors que là, on est quand même dans un cas un peu particulier de triangle où on a l'UEFA au milieu, comme tu le disais, et puis les joueurs d'un côté, les marques de l'autre. Et on imagine que les grosses stars, comme tu le disais, comme Ronaldo, ils veulent de l'argent. Si tu veux afficher ton logo avec ma tronche, si tu veux qu'on utilise mon image pour vendre ta marque, il faut me payer moi directement, pas l'UEFA. Il faut se rappeler quand même que tous ces sponsors, c'est ce qui permet aussi d'organiser l'UEFA comme ça. Ce qui permet qu'il y ait autant d'argent dans le football, c'est aussi parce que les sponsors viennent mettre autant d'argent dans le football et que sa visibilité est complètement mondial.
Ouais, alors ça pose une grosse question autour du sujet de l'avenir du sponsoring sportif. Ça, c'est quand même la question qu'on est en droit de se poser. C'est est-ce que le sponsoring sportif est en crise réellement? Est-ce que ça, c'est les symptômes d'une crise? Peut-être. C'est clair que le marché du sponsoring dans le sport, notamment, il a été durement impacté depuis la pandémie. Ça fait un an concrètement que plus personne, et notamment les sponsors, a vraiment envie de mettre des thunes alors que les stades sont fermés. que les gens peuvent plus accéder au public et que les seules retransmissions, c'est celles qui sont faites sur l'écran. Et du coup, les dépenses mondiales en sponsoring ont nettement chuté en 2020.
Ah, environ 40%, donc c'est quand même alarmant. Comme tu le disais, bah oui, il y a le Covid qui est passé par là. Les stades, par exemple, dans le foot, sont complètement vides, donc les revenus des clubs sont en chute libre. Et puis, il y a un gros sujet autour de la diffusion du sport, parce que les sponsors, ils payent pour être affichés dans les stades et que les personnes qui viennent au stade puissent voir leur logo et qui participent à cet événement sportif. Mais il y a aussi tous ceux qui vont regarder ça à la télé. Et là, on a basculé en une 15-20aine d'années à énormément de sports sur des chaînes payantes que tout le monde n'a pas forcément à la maison. Et ça pose question aussi auprès des sponsors de la diffusion et de la visibilité de leur marque quand elles accompagnent un événement. On sait là, par exemple, que... Alors, il y a une révolution qui est en train de se faire, hein, si on rentre un peu dans le détail de tout ça. On sait que, par exemple, la première division française, la Ligue 1 de foot, a été rachetée, les droits de diffusion ont été rachetés par Amazon. C'est une grande première en Europe, en tout cas à cette échelle-là, puisque 80% de la Ligue 1 va être diffusée sur Amazon dès l'année prochaine pour 3 saisons. Il y a beaucoup de sponsors que, pour l'instant, ça freine un petit peu. Ils ont un peu peur de que la Ligue 1 soit pas assez mise en avant, que avant, comme c'était sur Canal+, beaucoup de personnes avaient Canal et pouvaient regarder ça, et qu'eux, ils ont l'impression qu'Amazon, alors qu'Amazon, il y a 2 fois plus d'abonnés Amazon aujourd'hui en France qu'il y a, d'abonnés Canal+. Tout ça, c'est des questions qui font que, effectivement, le sponsoring est en retrait. Alors là, dans l'exemple qu'on a donné, nous, Heineken, par exemple, avec l'UEFA, c'est quand même un contrat de 45 millions de dollars annuels. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, Coca-Cola, de son côté, c'est 35 millions de dollars sur 6 mois avec l'UEFA. Donc, on est quand même sur des chiffres qui restent importants. Mais il y a toute une économie quand même de très grande échelle qui est en jeu, notamment en France. Par exemple, dans le foot, il y a beaucoup de clubs qui ne savent pas vraiment la prochaine saison, comment ils vont la terminer, parce que justement, ils n'arrivent pas à re-signer de sponsoring assez haut. Les droits de diffusion ont baissé aussi au niveau du prix, et du coup, bah, ça fait un peu flipper tout le monde.
Ouais. Et sur ce sujet du sponsoring intrinsèquement, c'est vrai que c'est très étonnant de voir aussi comment les sponsors ont évolué. Là, tu parlais d'Amazon sur la retransmission, on peut parler aussi des... Et donc, du coup, la digitalisation de ces retransmissions, on peut aussi parler du fait que les sponsors sont de plus en plus digitaux, et notamment TikTok qui est aujourd'hui partenaire
des partenaires officiels de l'UEFA sur cet euro.
Ce qui est quand même très étonnant. Et ça, ce que ça veut dire aussi, c'est que le football, ce sport, est plus que jamais considéré comme de l'entertainment, encore plus puisque je ne peux plus physiquement y aller. Donc ça devient, je trouve que c'est très intéressant de voir à quel point l'e-sport et le sport football sont en train de se rassembler, se rejoindre, parce qu'en fait, la virtualisation de l'événement qui passe exclusivement par l'écran ou le petit écran, notamment sur les réseaux sociaux, change plein de choses, change plein de dynamiques.
Bien sûr, et là, on vous retrouve TikTok, comme tu disais, c'est un qui est partenaire officiel de l'UEFA, donc c'est très peu de personnes, hein, très peu de marques qui sont partenaires officiels de l'UEFA. Et puis après, en sponsor de l'Euro, il y a aussi Aliplay ou Vivo, la marque Vivo, qui sont des sponsors principaux, effectivement. On voit bien que les marques de junk food petit à petit s'effacent de ces événements-là, parce qu'il n'y a plus l'événement sur place où tu es en tribune et tu vas commenter tes pilons de poulet KFC et ton coca, et il y a de plus en plus de monde devant sa télé ou sur son téléphone en train de regarder du sport. Tout ça, en tout cas, c'est des questions qui posent sur l'avenir, interrogent sur la diffusion du sport et sur les sponsors qui vont accompagner le sport dans les prochaines années. Mais on sent aussi, tu vois, là, avec TikTok, comme t'en parles, tout le soft power du sport, comme le Qatar est venu investir énormément dans le sport européen et dans le foot européen depuis 15 ans, et aujourd'hui la Chine, avec TikTok en cheval de Troie ou en fer de lance, comme vous préférez, est en train de faire un petit peu la même chose et d'investir énormément dans le sport européen. Tout ça, c'est aussi beaucoup de politique.
Et si Cristiano Ronaldo était payé par les Russes pour descendre Coca-Cola? Voilà, je pose la question.
Voilà.
Non, mais t'as raison. Il y a assez un enjeu aujourd'hui politique,
bien sûr,
sponsoring sportif, notamment ce genre de compétition. Et TikTok n'y va pas que pour que son logo soit vu.
Non.
Il va pour s'acheter une crédibilité à l'échelle mondiale. Les amis, voilà, beaucoup de choses à dire ce matin sur ce sujet-là. On serait ravis d'en échanger avec vous. Je parie, je mets ma main à couper que l'euro est loin d'être fini. On n'en est qu'au début et qu'il va se passer d'autres incidents. Je pense que ça va être la thématique de cet euro, le sponsoring. Parlons-en ensemble sur les réseaux sociaux, à Supernatif.
Et oui, à Supernatif sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas à venir en parler avec nous, prolonger le débat. On serait très heureux de discuter avec vous de tout ça. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Alors n'hésitez pas, vous nous laissez une petite note, un commentaire, ça nous fait super plaisir et surtout ça nous fait monter un petit peu dans les algorithmes. Déjà que la découvrabilité est pas fof.
Ouais, voilà, si on, est preneur.
Si vous pouvez nous aider un peu, ce sera sympa.
Allez.
Et parlez-en autour de vous surtout. Allez,
merci
ciao,
vous
ciao.
Tous, on vous souhaite bon un week-end. Très très bon week-end. Ciao.